Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir, rendez-vous mensuel dans Variation. Guy Le Polarski au micro, vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières et en particulier avec un membre éminent de cette association, Hervé Delouche. Et nous vous proposons aujourd'hui une émission spéciale anniversaire. Pour la centième de Variation en noir, l'occasion était belle de proposer à nos auditrices et auditeurs une rencontre avec un éditeur qui va lui fêter ses 20 ans en 2026, un éditeur que nous avons régulièrement évoqué avec Hervé au travers de ses livres, bien sûr, dans notre émission, un éditeur que nous avons aussi déjà rencontré lors d'un salon du livre d'expression populaire et de critique sociale, salon qui a eu lieu à Arras le 1er mai entre 2002 et 2024. Cet éditeur, c'est Oliver Geilmeister qui a donné son nom à sa maison d'édition, Geilmeister donc. Et avant tout, Oliver Geilmeister, comment on en vient à créer une maison d'édition ?
Bonjour. Créer une maison d'édition, c'est une mauvaise idée à la base. Et c'est pour ça que je l'ai fait, c'est qu'en fait, j'avais aucune idée de ce que ça représentait en termes de travail, en termes de risque et en termes d'engagement. Je pensais que parce que j'aimais les livres, parce que j'aimais lire, je serais facilement amené à être éditeur. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. J'ai eu beaucoup de chance et j'ai beaucoup de chance d'être encore là aujourd'hui. Comment on en vient à créer une maison d'édition ? Pour moi, c'est parce que j'avais un autre métier dans lequel j'étais pas très bon, qui m'ennuyait. J'étais dans la finance, la comptabilité, et que j'étais lecteur et que je me suis dit qu'il était temps d'aligner mes goûts, ce qui me faisait vibrer avec ce qui occupait la majeure partie de mon temps éveillé. Et donc j'ai quitté mon travail et j'ai monté une maison d'édition tout seul. Pendant 5 ans, j'étais tout seul. Et puis on est toujours là 20 ans après.
Oui, donc on va revenir là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a 20 ans déjà, le discours était quand même, c'est un milieu hyper saturé, le milieu de l'édition du livre, etc. À chaque rentrée littéraire de septembre, on nous annonce 400, 500, 600 romans, donc faire son trou dans ces années, c'est un sacré défi.
Oui, mais une fois encore, quand je me suis lancé, j'avais pas du tout conscience de ça. Je pense toujours d'ailleurs qu'en réalité, les métiers liés à la culture, c'est un peu. Je fais toujours le comparatif avec la restauration. Si à Arras ou ailleurs, il y a 10 bons restaurants, on peut en faire un 12e, un 15e, un 20e, parce que les gens ont toujours besoin d'être nourris. Ça marche aussi pour les nourritures spirituelles. C'est pas parce qu'il y a 10 bons réalisateurs de cinéma qu'il n'y a pas de place pour un 15e. Hollywood nous l'a montré, la littérature nous l'a montré, peut-être un peu moins maintenant, mais je pense que c'est pas le... On ne raisonne pas de manière quantitative. Moi, je pensais qu'il y avait des livres qui m'intéressaient, qui méritaient d'être partagés, d'être lus. Et il s'est avéré qu'il y avait d'autres personnes qui ont eu la même sensation, le même sentiment.
Voilà, il y a quelques éléments déjà de réponse. Hein. Alors, comment on en vient à créer une maison d'édition, c'était la première question. Et comment on réussit ce défi ? Parce que 20 ans après, voilà, on peut considérer que c'est une réussite, Geilmeister.
Non, je crois pas. En fait, une maison d'édition, c'est très organique. pour l'instant, on a les attributs de la réussite. On est un petit peu à la mode. On parle un peu de nous. On a des livres qui se vendent parfois, mais il y a, vous savez, les livres, c'est souvent comme les histoires de pêche. On raconte que les poissons qu'on prend. On parle jamais des poissons qu'on a manqués. On a quand même beaucoup plus de livres qui ne se vendent pas très bien, ou en tout cas pas assez bien, selon moi, par rapport à leur qualité, que de livres qui se vendent bien. C'est la réalité de beaucoup de maisons d'édition. Même si on n'est pas à plaindre de ce point de vue-là, mais et puis on bénéficie peut-être d'un moment, mais des maisons qui étaient à la mode et qui fêtaient leurs 20 ans dans les années 90, je peux vous en citer une dizaine qui maintenant sont des filiales de Gallimard ou d'Hachette ou d'Editis et qui n'ont donc pas si bien réussi que ça. Les dernières grandes réussites dans l'édition, pour moi, c'est Actes Sud. Voilà, Actes Sud, au bout de 50 ans, peut-être qu'on peut dire que c'est une maison qui a marqué et qui reste libre et indépendante. Pour moi, c'est le critère principal. C'est celui de ça, c'est cela, c'est celui de la liberté d'expression et de la liberté de capitalistique. Je pense à Actes Sud, mais je pense aux Arènes et l'Iconoclaste. Dans d'autres domaines, il y a beaucoup de maisons de BD. Glénat, c'est magnifique, qui sont à peu près dans ces années-là. Mais en littérature, j'ai beaucoup de mes contemporains qui sont... qui peuvent avoir le Goncourt ou le Médicis ou le Femina, qui sont devenus des filiales de grands groupes. Donc on verra, il faut tenir encore au moins 30 ans. Dans 30 ans, on fera la même interview et je vous dirai peut-être que ça sera une réussite.
D'accord. Comparaison avec la pêche est intéressante parce que, en fin de compte, quand vous avez créé Gallmeister, les éditions Gallmeister, vous avez choisi de délimiter ce champ éditorial sur un terrain, déjà les États-Unis, et puis quand même le roman, ce qu'on appelle le nature writing, un roman tourné vers la nature.
Je voudrais juste ajouter une chose, c'est-à-dire que moi je me souviens quand Gallmeister, on ne se connaissait pas encore, quand Gallmeister s'est créé, dans les milieux de l'édition, il se racontait que, c'était très sympathique, hein, mais l'Amérique du Nord c'était déjà complètement quadrillé par tout le monde, et que donc, c'était, c'était sympathique, point barre, et ça n'allait pas durer longtemps. On est là 20 ans après, le champ s'est ouvert largement, mais en même temps, la découverte d'auteurs d'Amérique du Nord et la redécouverte a été aussi la preuve que il fallait compter avec cette maison-là, je crois, non ?
Oui, je pense qu'on a bénéficié d'un moment et qu'il y a... Il y a peut-être des dynamiques de marché ou médiatiques... pour répondre à ta question, tu vois, quand on s'est lancé, effectivement, la maison, on avait un... alors, j'aime pas employer ce terme-là parce que ça fait très marketé, mais on avait un angle qui était le nature writing, donc la littérature des grands espaces, et un petit peu le noir. Mais le noir, j'osais pas trop m'y lancer parce que j'étais écrasé par des figures tutélaires comme François Guérif, qui travaillait chez Rivage, qui était une magnifique maison.
Qui est toujours, hein, on peut.
Oui.
qui va fêter ses 40 ans l'an prochain.
oui, qui est toujours une magnifique maison, mais je veux dire, qui était à l'époque une maison. Très impressionnante pour quelqu'un qui se lançait dans l'édition, c'était eux qui faisaient le son. Il y avait la série noire et je me sentais pas légitime. Mais en fait, je me sentais légitime dans les livres qui parlaient de grands espaces et de nature parce que c'était un secteur, des activités, on va dire, que je connaissais un peu, et une littérature où, à mon avis, il y avait des choses qui restaient à exprimer, même si Bourgois, avec McGuane, Harrison, Rick Bass, avaient déjà fait des choses intéressantes. Je pensais qu'il y avait des choses à dire, mais en fait la maison s'est développée de manière organique et maintenant on n'est plus du tout une maison centrée là-dessus. On a cette sensibilité là, mais quand je parle de la maison Gallmeister aujourd'hui, je la définis comme une maison populaire, de littérature romanesque, d'évasion, d'aventure, d'émotion, et tous les mots sont importants et pesés: populaire, romanesque, aventure, évasion, émotion. C'est la littérature que j'aime, qu'on trouve aussi bien chez Dumas et Victor Hugo que chez Tolstoï ou Shakespeare, pour parler des classiques, qu'on retrouve chez Denis Liane ou dans Les Dents de la Mer, ou chez Pierre Georgopoulixi, ou Craig Johnson, ou Blake Crouch. Maintenant, on est vraiment une maison généraliste, voilà, à mon sens.
Alors, on en revient au début. Les auteurs, un mot sur les auteurs clés des débuts que vous avez découverts. Alors, peut-être, vous nous expliquez que vous êtes un lecteur avant tout. Et donc, ces auteurs clés des débuts, vous les connaissiez comment? Alors, vous les lisiez en anglais? Vous les avez découverts au cours de voyage?
Il y avait un certain nombre d'auteurs que j'avais découverts parce que je les lisais en anglais, oui. Je pense à John Guérac, que j'ai attendu un peu avant de publier, ou Édouard Abi. Et puis, très vite, lorsque la maison s'est créée, je me suis rapproché d'agents, d'éditeurs étrangers qui ont commencé naturellement à m'envoyer des livres. Et j'ai découvert beaucoup. Je dirais en réalité que les trois quarts des auteurs que j'ai publiés les 10 premières années, je ne les connaissais pas quand je me suis lancé. Parce qu'au départ, je pensais que la maison allait faire 4 ou 5 livres par an et que ça irait bien comme ça. Mais en fait, c'était une idée idiote, puisque là encore, ça ne pouvait pas être possible. Et c'est maintenant, au bout de 20 ans, que j'aime bien que je me retrouve à publier des auteurs que j'ai lus chez d'autres éditeurs il y a 30 ans et qui sont un peu tombés en déshérence parce qu'on les a oubliés, parce que les éditeurs sont passés à autre chose. Mais moi, je suis très, très nostalgique de mes premières lectures. Et je pense que les grands auteurs, ils traversent le temps. C'est pour ça qu'on fait des classiques avec Littera. Et que, voilà, moi, j'ai publié mon premier souvenir de lecture, par exemple, quand j'étais enfant. J'avais 8 ans, c'était L'île au trésor. Voilà. Et je suis très fier de l'avoir publié dans une nouvelle traduction de Jacques Maillos. J'avais des lacunes aussi. J'avais jamais lu Le Comte de Monte Cristo. Et je l'ai découvert il y a 3 ans pour le publier, justement. Mais j'ai relu Les Misérables, qui m'avait bouleversé quand j'avais 16-17 ans. Et puis aussi des auteurs comme Crumley, qui était à la série noire dans les années 90 et qui avait disparu. Je vois là les aventures de Culberry Finn, que j'avais lu avec difficulté quand j'étais étudiant. On parlait de Dürrenmatt tout à l'heure, Friedrich Dürrenmatt, que j'ai lu quand j'avais une vingtaine d'années. Ces auteurs-là, quand on en parle à des membres de l'équipe qui ont une vingtaine d'années, par exemple, ils n'en ont jamais entendu parler, à part les grands classiques, bien sûr. Mais Crumley, Dürrenmatt, Woodrell, on va bientôt publier un auteur qui s'appelle Harry Mulisch, un auteur néerlandais. Et la jeune génération peut passer à côté de ces auteurs-là si on ne fait pas l'effort, le travail, et si on n'a pas la grande joie de les republier, de les retraduire, de les remettre sur le devant de la scène.
Oui, tu as remis aussi en avant un auteur auquel je pense que j'aime beaucoup, qui est Chris Offutt, qui avait été découvert par Patrick Reynal, je crois, au milieu des années 90. Ouais, et ça, à qui tu as redonné une surface énorme et qui, à mon avis, en plus, donne le meilleur de lui-même actuellement. Puis dans les... Je sais pas, moi, j'ai envie, parce que j'ai partagé à Pau un coup de cœur avec la journaliste Sabrina Champenois pour Larry Brown, par exemple, et pour Faye, qu'elle adore particulièrement, enfin, etc. C'est aussi tes lectures, tes coups de cœur.
Et là, on revient sur la première question que tu posais, sur la question de la réussite. Ces auteurs-là, je pense à Larry Brown, Chris Offutt, James Crumley, ils étaient publiés par Patrick Reynal dans La Noire, au début des années 90. Et les maisons d'édition, alors c'est la noire, c'était Gallimard. C'est une très grosse maison. La maison est passée à autre chose. Donc ces auteurs-là sont vraiment tombés en déshérence parce que bah, l'éditeur est parti, parce que ça ne se vendait pas assez, etc. Mais les émotions que les livres t'ont procurées quand tu avais 20 ou 30 ans, elles sont universelles et elles sont intactes. Et c'est ça qu'il faut préserver et transmettre. Et je pense que notre métier d'éditeur, c'est ça. On reste des commerçants, hein, je l'assume complètement, mais on partage les émotions. C'est ce que te dirait un restaurateur ou un vigneron, par exemple. Non, mais c'est vrai. Je pense que c'est ça qui est... Et c'est là ce qui me rend optimiste pour le livre, c'est ça. Il n'y a que ça.
On évoquera les prochaines cuvées, alors Gallmeister, par la suite. Mais, donc on pourrait dire que Gallmeister, c'est à la fois de la découverte d'auteurs qu'on ne connaissait pas ici, mais c'est aussi de la redécouverte de classiques. Il y a un certain nombre de noms qui ont déjà été évoqués. Et comment on combine là, ces deux aspects du travail éditorial ?
En fait, c'est assez simple et c'est assez naturel. Lorsque tu publies un auteur, quand je lis un auteur, par exemple Benjamin Whitmer, qui est un de mes auteurs préférés contemporains de littérature noire, et je pense un des plus grands auteurs du catalogue, quand on discute avec lui, on est très amis, ben, il va évoquer ses maîtres. Ben, ses maîtres, c'est qui ? C'est Larry Brown, c'est Crumley, c'est Woodrell. Et du coup, je me dis, ah mais tiens, mais oui, pourquoi pas republier ces gens-là ? Ah bah oui, tiens, plus personne n'y publie. Et donc, comme toi, dans tes lectures, tu fais ta bibliothèque, moi je fais ma bibliothèque mentale, et ça devient une maison d'édition et une ligne éditoriale. Mais ça n'a pas d'intérêt intellectuel réel de redécouvrir des auteurs. C'est anecdotique en réalité. Ça n'est pas anecdotique pour la maison d'édition, mais c'est anecdotique dans ce que ça apporte au marché du livre. Par contre, ça aide à une maison d'édition à se constituer un patrimoine intellectuel, des racines, parce que mes auteurs, les auteurs contemporains, ceux qui attirent la lumière, ils viennent pas de nulle part. Craig Johnson, ses références pour créer son personnage de Walt Longmire, c'est Le Comte de Monte Cristo qu'on publie et Jean Valjean. Et on publie Les Misérables également. C'est génial quand on relit Les Misérables, se dire ben ouais, je comprends très bien ce qu'il a voulu dire. Et pour moi, c'est. J'aime bien cette notion de... J'emploie tout le temps le terme organique, mais la littérature, c'est organique. Nos auteurs, ils viennent de Benjamin Whitmer, qui a une bonne quarantaine d'années. Son maître, c'était Crumley. Crumley, son maître, c'est Ross Macdonald, qui est aussi l'idole de James Ellroy, qu'on ne publie pas, mais voilà. Et j'aime bien ces correspondances, dirait Baudelaire, entre les auteurs, les époques et les origines, voilà, de tout. Et je pense que pour les lecteurs modernes, il faut les guider comme ça. Mais comme on s'éduque le goût du vin, comme on s'éduque le palais, on s'éduque la lecture.
Alors, dans l'histoire de... On va dire ça comme ça, de Gallmeister, il y a un moment important, je pense, c'est 2010, avec un premier succès, l'arrivée de David Vann, et puis surtout le prix Médicis, c'est étranger, donc une reconnaissance un peu par les pairs et par le milieu. Donc, un moment important, l'arrivée de David Vann et ce premier roman que vous publiez en 2010 de lui.
Oui, bien sûr, puisque, en fait, En 2010, on était deux dans la maison d'édition, trois assez vite, et que ce livre-là m'avait été apporté par hasard. J'ai tombé dessus par hasard, j'étais tombé amoureux du livre tout de suite. Je l'avais lu, on me l'a envoyé un jeudi après-midi, et le vendredi à midi, on avait signé le contrat. C'était incroyable. C'est un livre dont personne ne voulait. Et un agent m'en a parlé en disant « Ah, c'était une dame américaine. Oh, Oliver, ça serait très bien pour vous, je crois, de lire ce livre. » Et je l'ai lu, c'était Michel Lapôtre, une grande dame. Et j'ai adoré ce livre. Je me souviens que je me suis dit « Mais c'est incroyable, j'ai jamais lu un truc comme ça. » Et ce Quan Island, l'histoire de ce père qui emmène son fils de 13 ans pour vivre seul sur une île déserte, C'est un livre qu'on peut aimer, adorer, détester, mais c'est la première fois que j'ai pris conscience qu'il y avait des livres qu'on n'oublierait jamais. Mmh. Et c'est très rare, des livres qu'on n'oublie jamais. Ça arrive avec les grands classiques, on se souviendra toujours de Roméo et Juliette. Mmh. On se souviendra toujours... je sais pas, bah, du Comte de Monte Cristo. Voilà, c'est des histoires simples, hein, une histoire d'amour, une histoire de vengeance. Mmh. Et on rentrera pas dans les détails, on oubliera tout ça, mais on se souviendra toujours de cet arc narratif-là. De Sequoia Highland, c'est ce que je dis souvent, mais on s'en souviendra comme de My Absolute Darling. On aime ou on n'aime pas ces livres-là de Gabriel Tallent, mais c'est des livres qu'on n'oubliera pas. Et c'est très rare, finalement, dans une. Voilà. Et c'est ça qu'on cherche. Moi, c'est ça qui m'excite en tant que lecteur et en tant qu'éditeur.
Alors, David Vann, il est toujours dans la maison Guildmaster et un dernier roman
d'art. La jeune fille
voilà.
Et la mère.
Voilà, et Hervé, je pense que tu l'as rencontré aussi récemment.
Oui, oui, j'ai eu la chance, la joie d'animer une rencontre avec lui et puis un auteur de Nouvelle-Zélande et Marin Lodin. Marin Lodin qui d'ailleurs, que ça rejoint ce que Oliver vient de dire, c'est-à-dire que la lecture de Sequoia Highland n'a pas laissé du tout indifférent. Il a d'abord dit qu'il avait, la première fois qu'il avait commencé ce livre, il avait eu du mal, il avait détesté et tout, il s'y est remis après. Et il a adoré, c'est un livre qu'il n'oubliera pas. Je partage ce que tu as dit sur justement ces livres rares mais qui marquent profondément.
Outside of Boston, you showed me where your old man stayed. Took 28 years of blood I was lost in to feel loved on my own birthday. And I always felt like I was in between something like home and somewhere far away. But tonight on the west side in a bar out in Brooklyn, I saw tears outline your face. How lucky are we? It's been a hell of a week. We are all grown now. The smoke shaping out your bloody teeth. Be your home song. Upstairs with the guitar I was given when I was barely 14. When did McGlinchey's get so crowded and why are the crowds so damn great? I lost my mind on the streets of the city and maybe I lost all hope too. Took 28 years of blood pumping through me get to this evening with you. How lucky are we? It's been a hell of a week, but we're all grown now. The smoke's seeping out on the bar down the street, but we're home somehow. Thank you. to the south side of Boston. You showed me where your whole heart stayed. Took 28 years of blood pumping through me to feel loved on my own birthday.
Vous écoutez Radio PFM, Variation en Noir, un Variation en Noir spécial centième. Et nous vous proposons avec Hervé, à cette occasion, un entretien avec Oliver Geilmeister à l'occasion des 20 ans des éditions Geilmeister. Alors nous venons d'écouter Zach Bryan, 28, un choix d'Oliver Geilmeister qui ne laisse planer aucun doute sur son attirance pour les grands espaces états-uniens. Rappelons que le premier livre publié par les éditions Geilmeister n'est autre que Le gang de la clé à molette d'Edouard Abbey, un livre qui raconte l'histoire de quatre insoumis qui se lancent dans l'éco-sabotage afin de défendre l'Ouest américain contre la machine industrielle. Oliver Geilmeister, que nous retrouvons donc pour la deuxième partie de l'entretien qu'il a accordé à Variation en Noir dans ses bureaux parisiens le 18 novembre 2025. Alors, on sent aussi, Oliver Geilmeister, une fidélité réciproque entre les auteurs et vous. Il y a deux noms là, qui sont sortis, Benjamin Whitmer et puis donc David Vann. Ça, c'est aussi une volonté de la maison d'accompagner ces auteurs, en fin de compte, de leur redonner un petit peu ce qu'ils vous ont apporté.
Oui, c'est même pas une volonté, c'est que la question ne se pose pas. Pour moi... Je suis structurellement fidèle et je pense que c'est le... je ne peux pas dire mon devoir, ça serait grandiloquent, mais je pense que c'est... c'est la mission d'une maison d'édition. On est là pour... nous, on n'est pas important. Ce qui est important, c'est les auteurs. C'est la rencontre entre le travail de l'auteur et le lecteur. C'est à ce moment-là que notre travail prend tout son sens. Et une fois qu'on a réussi à créer cette rencontre, je me dirais, de quel droit on peut provoquer un divorce entre un lecteur et son public ? Je pense que c'est le job. Voilà. Après, il y a des histoires d'amitié humaine avec les auteurs que vous avez cités, qui sont mes amis et que je connais depuis un certain temps maintenant. Mais je pense que c'est un non-sujet. Ça doit être comme ça.
Si je peux me permettre, ça rejoint, tu l'as déjà cité comme étant un des, comment dire, une figure tutélaire quand tu étais jeune éditeur et jeune lecteur aussi. Mais c'est la ligne, moi, que défendait François Guérif quand il était chez Rivage, c'est-à-dire que les auteurs avant tout, et puis c'est ce qu'ils comptent, c'est ce qu'ils... voilà, on n'a jamais une raison de provoquer un divorce entre l'auteur et ses lecteurs, ça, jamais.
C'est une maison n'existe que par ses auteurs. Une maison, elle n'a aucune autre existence que ses auteurs. Donc c'est indispensable d'avoir ce sens de cette fidélité là et voilà, je sais pas le dire mieux.
Alors on a évoqué à plusieurs reprises déjà François Guérif et les éditions Rivage, enfin la collection Rivage Noir qu'il a créée. Quelle est votre relation avec cette figure incontournable du roman noir en France?
Alors François, c'est mon maître et un ami cher. Quand il a quitté Rivage en 2017, il est venu travailler avec moi. Il a apporté des auteurs qui ont rencontré un grand écho ici aussi. Hein. Par exemple, je pense à Peter Swanson. Mm. C'est lui qui m'a fait lire ce premier thriller qu'on a publié. Et quand il m'en a parlé, il m'a dit « Ah, mais tu devrais lire ça, c'est vraiment, vraiment bien. » J'ai dit « Mais François, les thrillers, t'es sûr que c'est bien ? Moi, je suis pas sûr. » Il dit « Si, lis-le. » Et j'ai lu le livre, et à 3h du matin, j'étais encore. Et une fois encore... ce vieux maître avait raison. Et quand j'ai parlé de ce livre-là à ma propre équipe commerciale, Alors que moi, j'ai toujours été un lecteur de noir plus que de thriller. Tout le monde m'a un peu regardé de haut en disant « Ah bon, on va faire du thriller ?» Et le deuxième livre de Peter Swanson, on l'a vendu 8 crimes parfaits à plus de 100 000 exemplaires. Comme quoi, c'est pas au vieux singe, pardon François si tu m'écoutes, qu'on apprend à faire la grimace.
Alors, Gallmeister, c'est aussi...
Oui. Je voudrais juste rajouter, c'est qu'en fait, un éditeur, comme un lecteur, ça n'est que le produit du travail des éditeurs qui l'ont précédé. C'est-à-dire que il y a toute une génération de lecteurs et de gens qui travaillent dans l'édition qui ne seraient pas là si il n'y avait pas eu le travail de François Guérif, voilà, ou d'Actes Sud, ou de Patrick Reynal, de gens qui dont on ne connaît pas nécessairement les noms, mais qui ont fait émerger des lecteurs, donc des influences pour d'autres éditeurs.
Alors oui, Gaël Meister, la maison d'édition, c'est aussi un souci de présenter un bel objet livre. Alors le grand format avec des jaquettes, la collection de poches Totem avec une présentation vraiment stylée. Et puis la marque de fabrique, c'est la pâte d'ours. Elle vient de où, cette patte d'ours, Oliver Gallmeister ?
Bon, alors, j'ai un scoop, c'est pas une patte d'ours, c'est une patte de loup. L'ours, c'est un plantigrade, et en fait, une patte d'ours, ça ressemble à un pied humain, c'est très laid. Une patte de loup, ça permettait, lorsque j'ai créé la maison, d'évoquer les grands espaces, d'évoquer la liberté, et je voulais un logo. Je voulais un logo, en fait, parce que c'est très rare dans les maisons d'édition françaises. C'est pas dans notre culture. Les anglo-saxons ont ça. Il y a des initiales souvent, mais il n'y a pas de logo avec un dessin, un animal comme le pingouin de Penguin. Il y a ça dans des maisons d'édition qui ne sont pas des maisons de littérature à l'origine. Hein. Je pense à La Martinière qui avait un loup. Alors j'étais un peu jaloux, il avait une tête de loup en train de hurler et donc je ne pouvais pas faire, mais je me suis rabattu sur une patte qui me permettait d'évoquer cette liberté et les grands espaces. Ouais.
C'est sûr que l'ours fait peut-être plus penser aux grands espaces américains, mais donc la trace d'une patte de loup. Oui, le loup. Oui.
Excuse-moi, le loup, c'est quand même...
C'est
quand même
la patte, c'est arpenté comme fait la littérature.
Exactement. Oui. Voilà.
Alors, aujourd'hui, Oliver Gallmeister, donc une collection fiction, une collection Totem Poche, donc Littera aussi, donc là c'est des classiques avec aussi un souci de présentation de ces auteurs très important. Et puis une nouveauté, j'ai vu ça, un livre jeunesse.
Oui. En fait, j'aimerais que Gallmeister soit une maison de généraliste de fiction. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter des histoires. Et pour ça, on a quatre, on va dire, collections. Mais on a des grands formats qui couvrent tous les genres. On fait aussi bien de la science-fiction que des histoires d'amour, que des récits de pêche à la mouche, que du roman noir, des thrillers, du policier... de la littérature très exigeante, de la littérature moins exigeante, comme les gens lisent, en fait, comme moi je lis en tout cas. On a Littera, qui est une collection de classiques, parce que ce que je répète à mes enfants, et maintenant que je suis avancé en âge, je rabâche toujours la même chose, mais que je pense que jusqu'à 30 ans, il faut lire que des classiques et rien d'autre. Parce que c'est la colonne vertébrale d'un lecteur, c'est la colonne vertébrale d'une maison d'édition. S'il n'y avait pas eu Zola, s'il n'y avait pas eu Wells, Twain, dont Hemingway disait « Avant Twain, il n'y avait rien ». Twain qui a inventé, par exemple avec Huckleberry Finn, le fait de faire parler un jeune garçon de 13 ans, Huck Finn, avec sa langue. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un auteur fait ça. C'est-à-dire que Victor Hugo, il parle du Gavroche, Hector Malo, il parlait de... j'ai oublié le prénom. Comment il s'appelle le personnage de Sans Famille ? Bon, voilà. Il racontait l'histoire des enfants, mais jamais c'est l'enfant qui racontait sa propre histoire avec ses mots. Mark Twain a inventé ça. Et si vous regardez les grands succès de la maison, c'est devenu une marque de fabrique américaine, mais les grands succès de la maison, c'est Sequoia Island, on est dans la tête d'un enfant. Mais Absolute Darling, on est dans la tête d'une adolescence. Betty, on est dans la tête d'une petite fille. C'est sidérant. C'est quand même quelque chose que les Américains ont inventé, qui font très bien. Et qui, chez nous, en tout cas, a rencontré pas mal d'échos. Et donc, tout ça pour dire que les classiques, c'est une colonne vertébrale et que le poche, c'est une collection qui permet à la fois de faire durer les livres et de les répandre dans d'autres librairies, auprès d'autres lectorats plus jeunes, puisque c'est une collection meilleur marché. Et la jeunesse, c'était une évidence qu'on allait en faire. Il se trouve qu'une autrice qu'on publie, Tiffany Maganiel, fait de la jeunesse et ça nous a mis le pied à l'étrier, si j'ose dire. Mais quand on a publié un livre comme « Béni soient les enfants et les bêtes » en poche de Glendon Swartout, c'était un livre qui paraissait dans une collection de jeunesse auparavant, dans les années 70. Et « Les mystères de Paris », moi, je l'ai lu quand j'avais 13 ans, c'était de la jeunesse, comme « L'île au trésor ». Comme les aventures de Tom Sawyer. Donc en fait, ces frontières entre les collections, les genres, les créneaux marketing finalement sont assez peu pertinentes. Mais voilà, tout ça pour dire que nous on essaie de créer un univers commun et cohérent pour l'ensemble des lecteurs.
Alors toujours sur le souci d'offrir vraiment un bel objet, il y a aussi des livres que vous avez réédités avec des illustrations, et notamment bon, un fameux livre, hein, Le gang de la clé à molette, là, avec des illustrations de Robert Crumb. C'est important vraiment pour vous de proposer ces ouvrages, ces ouvrages de qualité et avec ce double regard, en fin de compte, le regard de l'écrivain et le regard de l'illustrateur.
Alors, que les livres soient bien présentés, bien imprimés, ça me paraît important, c'est la moindre des choses, c'est notre travail. Il ne faut pas arnaquer les lecteurs, donc qu'ils aient des beaux objets me paraît incontournable. Et l'illustration, c'est un peu un bonus. En réalité, c'est assez anecdotique chez nous. On a peut-être une dizaine de livres illustrés. Moi, j'adore ça. Je suis toujours nostalgique des lectures que j'avais quand j'étais enfant. Vous savez, que ce soit les Jules Verne de Hetzel ou des livres illustrés par Gustave Doré. On lisait des livres avec une illustration toutes les 30 ou 40 pages. Je trouvais ça incroyable. C'est dommage qu'on ne le fasse plus. Et donc, quand j'ai l'opportunité de faire illustrer des livres par des artistes comme Chabouté, qui a illustré deux livres pour nous, dont un Crumley et puis Velma Wallis dernièrement, ou les dessins de Crumb qui avaient déjà été publiés dans les années 80, hein, puisque c'était en 85 que Crumb avait publié une édition américaine illustrée du Gang, je ne me prive pas de ce plaisir-là. Oui. Et c'est important, effectivement, de faire communiquer différents médias, enfin médias, le dessin, le texte. Je trouve que c'est des portes d'entrée différentes.
Alors nous, dans Variation en noir, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr le noir, le roman noir. Un petit mot, Oliver Gallimaster, sur la création en 2014 de cette collection néo-noir que finalement vous arrêterez assez rapidement.
Oui, alors ça, c'était intéressant. Quand j'ai créé la maison, je pensais que il fallait séparer les littératures. On avait une collection noire, on avait une collection natural writing, donc on faisait la littérature blanche des grands espaces, et puis on a créé une collection noire dans laquelle on mettait Craig Johnson, qui n'est pas du noir, qui est du roman policier en réalité. Et on avait même mis Le gang de la clé à molette, on l'a publié en noir. Voilà. Et puis je me suis dit, non, mais en fait, je veux faire du vrai roman noir urbain. Du coup, on va faire du néo-noir, c'est-à-dire des nouveaux auteurs de romans noirs. Mais c'était une idée complètement idiote. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a arrêté. Parce que, en fait, même nous, on n'arrivait pas à comprendre pourquoi on séparait Benjamin Whitmer de Edward Abbey, de Craig Johnson. Et puis, on rentrait dans ces débats abscons dont vous êtes sans doute friands sur cette fréquence. Et je sais qu'Hervé et moi, on a eu ces discussions de nombreuses fois. Mais alors, est-ce que Craig Johnson, c'est du roman policier, mais c'est du whodunit ou c'est du roman noir? Ouais, mais alors, dans tel épisode, il est quand même assez noir. Ouais, mais c'est pas du thriller. Ah ben non. Mais Pier Giorgio Puligsi, lui, il se définit comme un auteur de thriller. Et en fait, ça n'a aucun intérêt. Alors, effectivement, j'ai lu mon Manchette, comme tout le monde. Je connais l'idée que le roman noir est un roman de critique sociale, que le mal n'est pas extérieur à l'homme, qu'il fait partie de nous, etc. Mais bon, tous ces trucs-là. C'est très intéressant pour les profs, c'est très intéressant pour les universitaires et sans doute les journalistes, mais c'est pas du tout intéressant pour les lecteurs et les éditeurs un peu bas du front comme moi. Je pense qu'en fait, il y a des bonnes et des mauvaises histoires et que les lecteurs s'intéressent peu à ça finalement. Parce que par exemple, Guillaume Musso, c'est un auteur de romans policiers. Mmh. L'un des auteurs les plus lus en France, qui a des intrigues policières dans ses romans. By the way, Les Misérables, c'est un roman noir aussi. Et que dire des Mystères de Paris, et puis bien évidemment du Comte de Monte Cristo, mais finalement Les Hauts du Hurlevent. Qu'est-ce que c'est si c'est pas un roman noir? Et Les Frères Karamazov? Donc on va tout mettre en noir. Bon, je veux bien tout mettre en noir, j'aime beaucoup la couleur, mais ça n'a plus aucun sens, finalement, de séparer les jeunes ou les gens, quand ils vont au cinéma, ils ne disent pas qu'ils vont voir un film de science-fiction. Ils sont allés voir le dernier film de Cédric Jiménez, Chien 51, de Laurent Godet. Tiens, Laurent Godet, mais ce n'est pas un auteur de science-fiction. C'est un auteur de littérature blanche et Actes Sud. Donc, en fait, toutes ces catégories... Nous, en France, on aime bien mettre les livres dans des cases, dans des boîtes, dans des collections. Mais en fait, je pense que c'est un peu mortifère, et quand on discute avec des gens de l'âge de mes enfants, par exemple, ça leur passe complètement au-dessus de la tête. Et donc, en fait, ça met des barrières entre le livre et le lecteur. D'ailleurs, si vous rentrez dans une librairie, c'est d'ailleurs un problème. Vous avez un rayon littérature et vous avez un rayon noir, policier, ou voilà, et un rayon SF, ce qui voudrait dire que la SF et le noir ne sont pas la littérature. Et même que la jeunesse, ça ne serait pas la littérature. Ah bon ? Donc ça voudrait dire que L'Île au trésor n'est pas la littérature et que Black Crouch ou Dune ne sont pas la littérature. C'est absurde.
C'est une absurdité je partage tout à fait cet avis, d'autant que, par exemple, moi, je cite souvent à des gens qui me disent nous, on ne lit pas de romans noirs, je leur cite souvent Des souriers des hommes de Steinbeck, par exemple. C'est quoi si c'est, entre guillemets, du... guillemets, rural noir avant l'heure, quand même, c'est absolument évident. Mais je pense que ce côté, cette distinction, est pareil, quand tu dis on entre aujourd'hui dans une librairie, les rayons polars, effectivement, sont devenus des rayons très importants, mais en même temps, ça c'est personnel, mais moi il y a plein de livres dedans dans lesquels je ne me reconnais pas. Moi je lis pas de thriller qui frille, de choses comme ça, ça m'intéresse pas beaucoup. Et je pense qu'il y a eu une période où, par exemple, le terme polar devenu très à la mode, était important. La revue, d'ailleurs, créée à l'époque, à la fin des années 70, début 80, par François Guérive, justement. Mais c'était un moment, comme il y a des moments comme ça, où il fallait imposer une littérature, dire aux gens que Jim Thompson, c'était aussi important que Dos Passos ou que Faulkner, ou je ne sais pas. Mais en même temps, je crois qu'aujourd'hui, on est passé à autre chose. Et quand on voit des... Oui, effectivement, les jeunes générations n'ont pas à s'embarrasser de ce genre de distinguo et de ces cases dont les Français sont familiers.
Alors, Oliver Gallmeister, qu'est-ce que vous nous préparez pour les 20 ans des éditions Gallmeister ?
En réalité, les 20 ans, c'est cette année parce que la maison a été créée en 2005. Mais les premières publications ont lieu en 2006. Donc, on va fêter les 20 ans pendant 2 ans. On a un chouette programme en 2026. Ben, on a le retour de Gabriel Talent, qui avait rencontré un large écho il y a quand même 8 ans maintenant. Avec My Absolute Darling, il sort un roman qui s'appelle La Voix, qui raconte l'amitié entre deux jeunes confrontés au choix de l'existence sur fond d'escalade dans les grands espaces américains. C'est un livre absolument sublime. On va publier.
Je peux ajouter juste une chose, c'est que je crois que My Absolute Darling rebelote par rapport à Second Island. C'est aussi un livre qui avait été refusé par beaucoup de maisons d'édition.
Pas beaucoup, en fait, toutes les maisons d'édition. Personne n'en voulait. Donc, ouais, c'est assez drôle. Et on a beaucoup de livres qui vont sortir, mais on a un livre qui m'excite énormément, qui va paraître presque dans un an, en octobre prochain, qui s'appelle... Alors, The Book of Fallen Leaves, le livre des feuilles mortes, sans doute, qui est le premier volet d'une trilogie de fantasy avec des samouraïs. Donc, on est dans un monde imaginaire avec des samouraïs, et ça va faire 3 fois 700 pages. Et c'est un premier roman, et ça m'excite énormément. Voilà. Et on n'a jamais fait de fantasy, j'y connais rien, mais ce livre m'a attiré, et j'adorais le lire. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On continue à traduire les Russes. Hein. On avait traduit les frères Karamazov. Là, on va publier l'Idiot. J'ai plein d'autres choses. J'en ai tellement, pour être franc.
On va guetter tout ça. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué. Le point de départ, c'était quand même les États-Unis. Et il y a eu une ouverture sur le monde avec le développement de la maison Oliver Gallmeister.
Oui, on reste une maison de littérature étrangère, sauf pour les classiques, puisqu'on publie beaucoup de français maintenant, je les ai cités, mais j'ai une éditrice qui s'appelle Bénigne Adrien qui a développé la littérature étrangère, on va dire, que moi j'appelle étrangère, mais en fait non américaine chez nous, et une nouvelle éditrice s'appelle Barbara Bessa qui s'occupe de la jeunesse et du young adult, des romans adolescents qui vont arriver l'année prochaine. Ah oui, voilà, on va lancer des romans adolescents avec un premier roman d'une jeune femme qui s'appelle Cathy Burnett, qui s'appelle Beth est morte, et qui est une réécriture des 4 filles à Outer March. Dans le premier chapitre, l'une des 4 filles est assassinée et on mène l'enquête. Voilà, c'est super.
Il y a, pour en finir aussi, puisqu'on parlait de cette ouverture à des littératures non nord-américaines, disons, il y a aussi le superbe succès de Pier Giorgio Pulici.
Ah oui, bien sûr. Là, l'auteur qu'on vend le mieux en ce moment chez nous, c'est un auteur italien. Vous voyez, donc, quand je dis qu'on a une maison de généraliste, et Pier Giorgio est un auteur de romans policiers, ou de romans noirs, ou de thrillers, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'était un auteur important. C'était en 2024 l'auteur italien le plus vendu en France, avec seulement 5 livres. Alors que devant lui, il y a Elena Ferrante, Eri De Luca, qui sont là depuis 30 ans. C'est un auteur populaire que j'adore et que je lis toujours avec grand plaisir.
Ben, merci beaucoup, Oliver Gallmeister. Et puis, donc vraiment, un bien bon anniversaire. Vraiment, merci. Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était Variation en noir dans Variation, une émission mensuelle de Radio PFM réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières et en particulier avec Hervé Delouche. Alors de très bonnes lectures en Gallmeister ou pas à toutes et à tous et rendez-vous dans un mois.